Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est notre 12e pour notre 9e saison et je reçois aujourd'hui André Hernandez. Bonjour.
Bonjour.
Alors, André Hernandez, à la fois maire de Canet-d'Aude, mais également président de l'intercommunalité, ou plus exactement la communauté de communes. Pour faire simple, on va dire Lézignan, Corbière, Minervois. Vous en êtes d'accord, monsieur Hernandez?
Tout à fait d'accord, pas de souci.
Voilà. D'autant plus qu'on va y revenir peut-être un peu. Il y avait eu un moment, petite discussion, un débat plus ou moins animé sur le nom. Hein. C'est le nom d'origine et apparemment c'est le nom que vous gardez aujourd'hui, c'est bien
ça? Nous l'avons conservé sans aucun problème.
Bon, on reviendra peut-être sur ce petit épisode qui n'est pas fondamental, il faut bien le dire. Alors, vous êtes maire de la commune de Canet-d'Aude. Canet-d'Aude, pour les Audois et notamment les gens de la Narbonnaise, c'est un mi-chemin plus ou moins entre Narbonne et Lézignan. D'ailleurs, territorialement, avec la bizarrerie suivante, pour la députation, vous êtes rattaché à Narbonne, mais pour l'interco, puisque c'est vous le président, vous êtes rattaché à Lézignan. C'est pas un écartèlement, un petit peu, ça?
Alors, franchement, nous sommes, on va dire, un peu à mi-chemin entre Narbonne et Lézignan, idéalement placés, et donc ce n'est pas véritablement un problème. On est très vite à Narbonne, très vite à Lézignan, et je vois les Canetois vont à la fois aussi bien sur Narbonne que sur Lézignan.
Oui, ça, au niveau, par exemple, bien sûr, pour faire les courses ou pour travailler. Mais sur le plan électoral, c'est assez drôle, finalement. C'est le redécoupage qui fait que
mais
ça
oui,
se passe
savez,
comme ça.
Il y a beaucoup de bizarreries comme ça. Cantonalement, les gendarmeries, les pompiers, souvent, on est dispatchés oui. Voilà, dans plusieurs endroits.
Oui, oui, voilà. Bon, il ne faut pas chercher absolument de la rationalité absolument partout. Mais donc, vous êtes maire depuis... Alors, combien de temps, André Hernandez?
Alors, depuis 1989, donc c'est mon 6e mandat là que j'exerce à Canet-d'Aude.
Voilà, et vous avez déclaré récemment que ça serait votre dernier, et je crois que vous avez même engagé un peu une procédure pour concrétiser cette situation.
Tout à fait, je l'avais annoncé donc publiquement dès le départ. Je repartais pour un 6e mandat, mais j'avais dit que à mi-mandat, je céderai ma place pour un successeur. Et donc je m'y prépare, puisque dans les mois prochains, donc je vais laisser mon mandat de maire de Canet-d'Aude.
Oui.
Ça, c'était donc annoncé. Et évidemment, je vais tenir cet engagement.
Oui, il y avait un scénario qui a été public, en quelque sorte.
Tout à fait, ça a été dit publiquement.
Et alors, curieusement, le mot n'est peut-être pas le meilleur, mais curieusement quand même un petit peu aussi, votre successeur va s'appeler Hernandez.
Alors, normalement, oui, hein, c'est lui que je pressens pour me succéder. Mais s'il s'appelle Hernandez, nous n'avons aucun lien de parenté, donc il ne faudrait pas croire que c'est le père qui transmet à son fils, pas du tout.
Voilà, mais c'est votre premier adjoint.
C'est mon premier adjoint depuis un moment. Oui.
Oui. Alors, vous attendez, j'imagine, on va y revenir hein, sur ce que ça veut dire concrètement, vous attendez, j'imagine, André Hernandez, que votre successeur fasse un petit peu la même politique que vous pour l'avenir, puisque vous l'avez d'ailleurs parfois mené ensemble.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a une vue sur le village, sur la commune, ce sont... pour le lendemain, absolument identique. Enfin, chacun, évidemment, le fera à sa façon, mais on a été formés ensemble, et on a formé donc un binôme assez rapproché pour dire que demain, cette politique continuera. Mais bon, politique au profit de nos Canetois et Canetois.
Oui, j'imagine. Bon, le souci majeur restant le même, quel que soit l'élu.
Tout à fait.
Mais les circonstances et les époques changent.
Bien sûr, chacun a sa vision des choses, voilà, et puis chacun donne son empreinte aussi, et c'est ce qu'il faut respecter.
Alors, vous le disiez, André Hernandez, il y a quelques minutes, Canet, c'est à mi-chemin entre Lézignan et Narbonne, Narbonne ou Lézignan, on ne sait pas, peu importe le sens dans lequel on le prend, l'attraction est relativement la même, et la proximité est relativement la même. Ce qui fait que dans ces cas-là, on a... Le risque, entre guillemets, de devenir ce qu'on appelle un village dortoir, ce que les maires n'aiment pas en général, hein, ils veulent garder une vie. Comment vous y êtes-vous pris, André Hernandez, justement, pour éviter cet écueil du village dortoir?
Alors, bon, d'abord, c'est difficile, hein, parce que c'est la volonté des nouveaux habitants d'adhérer ou pas aux animations que propose le village et la commune.
C'est-à-dire la volonté de s'intégrer dans le village.
Tout à fait. Moi, quand on réunit les nouveaux Canetois, chaque année, hein, début d'années. On leur dit bien, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'adhérer à des associations. Elles sont nombreuses, donc, par ce biais-là, parce que rien n'est mieux que la rencontre. Et donc, si on reste chez soi et qu'on ne participe à rien, oui, on devient un village dortoir. Et c'est difficile de lutter contre ça, parce qu'on s'aperçoit qu'une partie des gens, certes, adhèrent à nos associations, viennent dans nos regroupements, dans nos manifestations, mais d'autres, donc, on ne voit que très peu. Et après, il faut le respecter, parce que c'est la volonté de certains que de rester chez soi et d'avoir une vie un peu plus confinée.
Oui, alors ça, c'est pour le lien social, la relation humaine. Sur le plan de l'urbanisme, un maire a quand même un rôle important, à mesure où il signe les permis de construire, donc il a quand même un regard sur l'urbanisme.
Alors il a un regard d'abord parce que le conseil municipal fait son plan local d'urbanisme, donc il intègre des zones à construire. Et en même temps, on a une vision de voir un petit peu à moyen terme, ou voire à long terme, de l'évolution de notre village, ce que l'on veut exactement. Moi, quand j'ai été élu maire, il y avait 847 habitants. Aujourd'hui, il y en a 1900 et quelques, donc pas loin de 2000. C'était un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé, parce qu'on souhaitait que les gens qui viennent chez nous trouve tous les services. En même temps, moi, je voulais que la boulangerie demeure, que la boucherie demeure, que les médecins demeurent, que la pharmacie demeure. Donc, que tous ces services, grâce à cette population, puissent donc continuer. C'est ça qui m'importait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un chiffre de presque 2000 habitants, qui est vraiment quelque chose qu'on souhaitait. Et on a à réfléchir maintenant pour l'avenir, pour savoir si est-ce qu'on veut continuer à s'étendre, parce que je vous avoue que dès lors qu'on ouvre un lotissement, il se remplit très vite, mais c'est à nous de voir quelle dimension on peut donner demain à notre village, et puis peut-être on parlera de la nouvelle loi climat et résilience avec cette fameuse ZAN, et qui va peut-être automatiquement nous contraindre aussi.
Oui, on va y revenir, parce que ça, c'est peu connu et c'est probablement très intéressant.
Un sujet très important, oui.
Important pour l'avenir, oui. Mais vous, donc, quelle est la population idéale pour vous à laquelle il faudrait se stabiliser? À la fois, comme vous le disiez, pour conserver tous les services, y compris la boulangerie, dont on parle beaucoup ces temps-ci, oui. Mais les services médicaux, par exemple. Quel est la parenthèse idéale pour vous?
Alors moi, je le situerais à peu près vers 2500 habitants. C'est-à-dire se laisser le temps quand même, d'arriver à peu près à cette hauteur-là. Voilà, moi, c'est ma vision personnelle là. Hein. On est arrivé presque à 2000, je me dis, oui, jusqu'à 2500, on peut garder un peu ce caractère rural qui est important, et voilà. Parce qu'après, aller au-delà, et puis, il faut voir quand même de quelle manière on va l'étendre. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut considérer que ces nouveaux lotissements que l'on fait, ils doivent quand même s'intégrer sur un plan environnemental un peu mieux dans nos villages, avec des espaces verts, avec des voies douces, avec voilà. Il ne faut pas non plus une concentration énorme, ce qui est en contradiction avec ce qui est prôné, justement.
Oui, oui, parce que parfois, c'est vrai que beaucoup de lotissements, à un moment, font un peu pièce rapportée. Sans grande vision de l'intégration future.
Et oui, parce que je crois qu'il faut voir les voies de communication, comment tout ça s'interpénètre, etc. Les liaisons que l'on peut avoir entre les... Il faut qu'il y ait des liaisons, sinon les gens sont isolés et sont moins intégrés dans nos villages.
Oui. Et alors, vous disiez, André Hernandez, donc, il y a une loi qui se profile. Alors, je me souviens plus comment elle s'appelle.
Loi climat et résilience.
Climat et résilience, selon laquelle il serait interdit dorénavant d'agrandir beaucoup les zones constructibles autour des villages ou des villes.
Alors ça, c'est une loi qui nous impacte, en fait. J'espère qu'elle va être un petit peu revue, parce que vraiment, on ne l'apprécie guère. Hein. C'est une loi qui nous dit la chose suivante. Alors l'État pense qu'il faut mesurer, et on peut le comprendre dans le fond, l'absorption de terrains agricoles et de bonnes terres. Ce qu'on voit beaucoup dans les grandes villes, d'ailleurs, dans les grandes métropoles.
Oui, dans les périphéries.
Et voilà. Et l'État nous dit, voilà, vous avez consommé les 10 dernières années tant d'hectares, donc pour les 10 prochaines années, vous ne pourrez en consommer que la moitié. Donc c'est très contraint. Par exemple, au niveau de l'intercommunalité, donc Canet fait partie, ils ont donc fait des calculs, nous aurions consommé à peu près 195 hectares, donc on nous dit, eh bien, vous n'aurez que 97,5 hectares à consommer pour les 10 ans qui viennent.
Oui.
Et en même temps, avec l'économie plus l'habitat.
Oui, ce qui finalement, quand on y réfléchit bien, est profondément absurde.
C'est absurde parce que un, ça ne correspond pas à ce que nous voulons dans la ruralité, et deux, ça nous contraint sur le plan économique également, c'est-à-dire sur le développement de nos zones qui ont besoin de se développer. Et puis demain, si on ne peut pas construire, où logera-t-on tous ces nouveaux habitants qui nous arrivent en Languedoc-Roussillon? Et chez nous, on le voit. Dans la couronne lusignanaise, il y a une progression quand même de population. Où les mettra-t-on? Et puis, si on ne peut pas installer des entreprises, c'est un appauvrissement. Et donc ça, nous y sommes opposés.
Oui, donc ça n'a ni queue ni tête, si on y réfléchit bien, ce genre de...
Moi, je trouve que c'est absurde. Hein. Ouais. Je dis même souvent que c'est une ineptie, c'est-à-dire quelque chose qui est décidé sur le plan national, mais qui, en fait, ne correspond pas tout à fait à nos régions. Alors que ça s'adapte, peut-être, que ça s'impose dans les grandes villes et les métropoles, comme je vous disais, mais pour la ruralité, c'est pas normal.
Voilà, c'est
parce
ça.
Que le gouvernement, voyez, nous dit, eh bien, puisque vous ne pourrez pas vous étendre, vous allez renforcer les centres-bourgs. Mais les centres-bourgs, chez nous, c'est souvent des zones qui sont inondables, dans lesquelles on peut pas construire. Ou alors c'est très vétuste, c'est des maisons qui ont beaucoup d'humidité. Et puis les gens, quand ils viennent chez nous, franchement, s'ils arrivent de la région parisienne, c'est pas pour habiter dans un premier ou deuxième étage. Ce qu'ils veulent, c'est un petit jardin pour faire leur barbecue, pour faire, voilà, recevoir leurs amis. C'est ça qu'ils veulent.
Oui. Et alors, je crois, justement, c'est cette espèce d'irrationalisme à laquelle vous faites allusion, André Hernandez, a soulevé pas mal de véhémence. Pas mal d'élus tentent de s'opposer à l'application de cette loi.
Alors nous, déjà, au niveau de l'intercommunalité, on a fait un moratoire. On a dit non. Puisqu'on travaille sur notre SCOT, notre projet de territoire, nous avons dit non. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en l'État, qu'on ne peut pas accepter. Donc on a ce moratoire. Et puis nous avons décidé d'en parler moi-même à tous mes collègues présidents d'intercommunalité. Donc on s'est réunis il n'y a pas très longtemps en Narbonne, et d'un commun accord, nous allons faire une motion. Nous souhaitons y associer, je pense qu'il est très d'accord, la CCI et peut-être la Chambre des métiers aussi, pour rapporter cette motion à Monsieur le Préfet en lui disant, voilà, dans la ruralité, cette chose-là, c'est une ineptie, c'est quelque chose qui va trop nous contraindre.
Oui, voilà. C'est peut-être valable dans certaines régions, autour de certaines métropoles. Dans des départements ruraux ou semi-ruraux comme l'Aude, ça n'a ni queue ni tête, encore une fois.
Surtout quand on voit dans nos petits villages toutes les terres qui sont abandonnées et qui demain seront envahies par la forêt. Donc autant vaut-il mieux qu'il y ait quelques habitations et quelques enfants pour leurs écoles qui s'installent là.
Et voilà, et il faut s'en occuper. On marque, André Hernandez, une première pause. On va vous retrouver alors avec une autre casquette, celle de président de l'Interco, c'est-à-dire la communauté de communes Lézignan, Corbières, Minervois.